À vous la suite. Le premier jour du reste de ma vie, de Virginie Grimaldi. La bibliothèque d'éclat vous propose de jouer avec elle. Qui aura la meilleure intuition? Qui comprendra le mieux les personnages, leurs sentiments et leurs intentions? Vous allez entendre dans quelques instants le début d'un livre, légèrement retravaillé pour ne pas être trop long. Nous vous proposons d'essayer de deviner ce qui arrive dans la suite de l'histoire. Vous pourrez nous communiquer votre réponse par message audio, par mail ou même par téléphone. D'ici 15 jours, nous vous enverrons la fin qu'a choisi l'auteur. Le livre est bien sûr disponible à la bibliothèque si vous souhaitez le découvrir dans sa version intégrale. Bonne écoute.
Ma tête a coupé qui ne se doute de rien. Marie parle toute seule, comme chaque fois qu'elle est stressée ou excitée. Elle plonge le batteur dans le cul de poule et regarde les ingrédients valser avant de se mélanger. Ce sera bientôt terminé. Il ne reste plus qu'à enfourner. La table est dressée, les boissons bien calées dans le frigo, les ballons gonflés. Elle prépare tout depuis ce matin. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. 40 ans, justement. Et Marie va lui offrir une surprise dont il se souviendra jusqu'à la fin de sa vie. Il est 19h30. Rodolphe ferme la porte de son bureau et se dirige vers l'ascenseur. Il sait que Marie lui a préparé une surprise. Elle l'a fait pour ses 20 ans, elle l'a fait pour ses 30 ans, elle le fera pour ses 40 ans. Elle a essayé d'être discrète. Mais même pour ça, elle n'est pas douée. L'autre jour, en sortant de la douche, il l'a surprise au téléphone en train de chuchoter. « C'est une surprise », elle disait. « Tu parles d'une surprise. » Il va rentrer, tous ses amis vont crier « Joyeux anniversaire !» Il va faire semblant d'être étonné, il va recevoir des cadeaux, ils vont l'appeler le vieux, il va faire mine de trouver ça drôle. Ils vont manger des gâteaux dégueulasses et boire du champagne, et il ira se coucher en regrettant de ne pas avoir passé la soirée avec Natacha, ou Léa, ou n'importe quelle autre que Marie. 19h30. Marie tremble. Ça ne lui est pas arrivé depuis longtemps. Elle fait un dernier tour pour vérifier que tout est parfait. Elle a poussé tous les meubles du salon, mis en place les pizzas, les cakes, les toasts, les cupcakes, les verrines, sortit les boissons. Les invités ne devraient plus tarder. Et Rodolphe arrivera dans 25 minutes, comme tous les soirs, juste à temps pour le générique du journal. Il ne reste plus qu'un détail. 19h50. Rodolphe gare son cabriolet devant la maison. Il allume une cigarette pour retarder l'échéance. Comment a-t-il pu se retrouver dans une vie qui ne lui convenait pas? Même la fête, il n'a plus envie de la faire. Il écrase le mégot dans le cendrier devant la porte et abaisse la poignée. Faire semblant d'être content. Faire semblant d'être content. Joyeux anniversaire, Rodolphe. Ils sont tous là. Ses filles, ses parents, ses copains de fac, ses collègues, ses potes de poker, leurs femmes, leurs enfants... Tous s'égosillent pour lui faire plaisir, avant de venir le saluer un par un. Alors, ça fait quoi d'avoir 40 ans? L'âge de raison, vieux. Tu les fais presque pas, t'inquiète. Bon anniversaire, papounet. T'ouvriras mon cadeau en premier, c'est le petit paquet blanc. On t'aime, mon chéri. Il y a 40 ans, tu faisais notre bonheur. Alors, tu l'as fait quand, ta crise? Il en est à une quinzaine de bises lorsque son frère s'avance pour l'embrasser. Rod, t'as vu l'enveloppe? Il n'avait pas vu l'enveloppe. Posée au milieu de la table, elle était pourtant difficile à louper. Blanche, toute simple, banale. Une enveloppe comme il en a ouvert des tas. Mais celle-ci, il pressent qu'elle sera différente. Rodolphe, tu voulais être surpris? Tu vas l'être. Je pars. Joyeux anniversaire, Marie. Postscriptum. J'ai invité Natacha, Isabelle, Géraldine, Léa, Sabine, Laure, Aurélie, Marjolaine, Nadia et les autres. Elles arriveront vers 21h avec les bougies. Si tu comptes bien, tu en trouveras 40. Quelle chance! Tu vas pouvoir toutes les allumer d'un coup. C'est la première fois que Marie prend l'avion. Son médecin lui a prescrit des anxiolytiques, mais en empruntant la passerelle d'embarquement, elle ne ressent aucune angoisse. Elle ne ressent pas grand-chose en réalité, pas même une pointe de culpabilité. Elle a beau imaginer Rodolphe hier soir complètement perdu au milieu du salon, à chercher une explication valable à l'absence de sa fidèle épouse, rien ne vient troubler ses certitudes. Des doutes, elle en a eu, mais seulement le soir de sa décision. C'était un samedi. Rodolphe était parti jouer au poker et les jumelles étaient rentrées à la maison comme chaque week-end. Elles se trouvaient toutes les trois dans la cuisine en train de se préparer un plateau repas en prévision d'une soirée télé. Justine racontait son stage dans une agence de communication. Lily parlait de ses cours de comédie. Et Marie écoutait en savourant ce moment. C'était son moment préféré de la semaine, quand les rires de ses bébés résonnaient dans la maison. Depuis plus d'un an, leurs études les avaient poussés au loin, laissant le foyer et son ventre vides. Leur chamaillerie, leur fou rire et leur bazar camouflaient l'inertie de son quotidien. Les entendre lui permettait de ne pas voir. Le voile était tombé en même temps que leurs affaires dans le coffre de la voiture. C'est Justine qui a lancé le sujet. Maman, on voulait te dire un truc, mais faut que tu jures de ne pas mal le prendre. Marie s'est assise en se préparant au pire. Lily lui a servi un verre de rosé. On t'aime, tu le sais. Papa aussi, on l'aime. Mais tous les deux ensemble, on peut plus vous voir. C'est vrai, vous vous êtes vus, sérieux. On dirait trop des vieux. Vous vous parlez juste pour vous engueuler. C'est trop naze. D'ailleurs, tout le monde le dit. Comment ça, tout le monde le dit? Ben, papy et mamie, ils se demandent ce que vous foutez encore ensemble. Et Tati aussi. Et Madame Morel, tu sais, la mère de Maxime, elle dit que t'as l'air trop malheureuse. La mère de Maxime? Ouais, bref, tout le monde le pense. Pourquoi vous divorcez pas? Marie a bu le verre de rosé d'un trait et cherché ce qu'elle pourrait répondre. Rien n'est venu. Et puis, bon, papa te trompe, tu le sais, hein? A poursuivi Justine. Lily a ralenti sa sœur et passé un bras autour des épaules de sa mère. Vas-y, Jus, c'est bon, t'as pas besoin d'en rajouter. Non, mais c'est vrai, faut qu'elle sache. Je veux pas te faire de mal, Mamounet, tu le sais. Je veux juste que tu sois heureuse et je vois bien que tu l'es pas. Tu mérites mieux que cette vie de mes mères. Merci, ma chérie, tu es trop bonne, a répondu Marie en riant. Et peut-être que sans papa, tu prendras soin de toi. Lily a jeté un œil sur l'écran de télé. Allez, on va dans le salon, ça commence. Avant cette conversation, Marie n'avait jamais envisagé de quitter Rodolphe. Elle l'avait aimé, passionnément. Le front contre le hublot, Marie regarde la piste défiler de plus en plus vite. Puis l'avion se lance dans les airs. C'est parti, elle est seule. C'est elle qui prend les commandes de sa vie. Bon sang que c'est excitant. Aidez-moi, je vais mourir. Sur le siège d'à côté, une femme d'une soixantaine d'années enfonce ses ongles dans la cuisse de Marie. Madame, ça va? Non, ça ne va pas du tout. Je veux descendre. Ah, ça va être compliqué, je pense. Vous avez un parachute? Je n'ai pas envie de rire. Pardon, j'essayais de vous détendre, répond Marie. Si vous voulez, j'ai des anxiolytiques. Je vous en attrape un? Sa voisine serre dans sa main tremblante le camé accroché autour de son cou. Je n'en ai pas pris par peur des effets secondaires. mais je suppose que ça ne peut pas être pire. Elle suppose mal. L'avion atterrit. Anne plane encore. C'était fantastique, n'est-ce pas? Marie range son livre, son iPod et son carnet de notes dans son sac. Ils ne lui ont été d'aucune utilité. Elle n'a pas pu se concentrer. L'anxiolytique a transformé sa voisine. Marie a passé le trajet à l'écouter s'extasier sur les magnifiques nuages, les fabuleux oiseaux, le délicieux café, les somptueuses ailes de l'avion. Le personnage est plutôt sympathique et le temps a passé plus vite. Mais par moments, elle a été tentée de lui proposer un deuxième comprimé, histoire de l'envoyer rejoindre Morphée. Anne frotte ses mains sur ses cuisses. Elle se sent engourdie. « Merci pour le cachet, » dit-elle en souriant béatement. « Je suis contente si ça vous a aidé. »« Je ne vous ai même pas demandé. »« Quelle malpolie je fais. »« Vous venez à Marseille pour des vacances ?»« Oui, on peut dire ça. »« Moi aussi. Je pars en croisière. »« 3 mois sur un paquebot, alors que j'ai le mal de mer. » C'est une idée saugrenue, n'est-ce pas? Marie se met à rire. Je crois qu'on va au même endroit. Ah bon? Vous faites la croisière tour du monde en solitaire? Oui, c'est fou cette coïncidence. C'est vrai, c'est drôle, répond Anne. Le hasard? Je vous souhaite un bon voyage alors. On se croisera peut-être sur le bateau. Bon voyage à vous aussi. J'espère que vous y trouverez ce que vous êtes venu chercher. En sortant de l'aéroport de Marseille, Marie prend une longue inspiration. L'air est le même ici qu'à Paris. Pourtant, il y flotte une bonne odeur de liberté. Son premier réflexe est de plonger la main dans son sac à la recherche de son téléphone. Elle doit prévenir ses filles qu'elle est bien arrivée à la première étape. Quelques secondes lui sont nécessaires pour se souvenir qu'elle ne l'a pas pris. Avec lui, elle aurait eu un fil à la patte et se serait sentie obligée de donner et de prendre des nouvelles. Elle a besoin de déconnecter. En cas d'urgence, ses filles savent où la joindre. Le reste attendra qu'elle sache quelle direction donner à sa vie. Lorsqu'elle a appelé son opérateur téléphonique pour mettre un terme à son abonnement, l'homme au bout du fil lui a demandé si elle les quittait pour un autre. Elle a fondu en larmes. Il était temps qu'elle parte. Le chauffeur de taxi a un accent du nord avec des accents du sud. « Vous êtes drôlement chargé pour une croisière, » lui dit-il dans le rétroviseur. « C'est une croisière de 3 mois, c'est pour ça. »« Hein, 3 mois? Mais vous êtes fada. Vous allez faire quoi pendant 3 mois sur un bateau ?»« Le tour du monde en solitaire. »« Je comprends rien. » Marie sourit et retire les écouteurs de ses oreilles. Elle n'arrivera pas à se concentrer ici non plus. « Bon, je vous explique, » dit-elle. « Les croisières tour du monde, c'est pas nouveau. Il n'y en a pas des masses, mais ça existe depuis un moment. En gros, en 100 jours, on parcourt 7 mers, les 5 continents, et on fait escale dans plus de 30 pays. « Oh, fan, ça c'est du voyage. Mais pourquoi en solitaire ?» Sur un paquebot, il y a du monde. C'est tout, sauf solitaire. Alors ça, c'est un tout nouveau concept. C'est même la première croisière du genre. En fait, tous les passagers seront seuls. Ah ouais, j'ai vu un truc comme ça à la télé. C'est comme une agence matrimoniale, c'est ça? Ça doit y aller dans les cabines, si vous voyez ce que je veux dire. Le chauffeur se met à rire fort. Marie ne peut s'empêcher de faire comme lui. Justement, c'est le contraire. C'est pour les gens qui veulent rester seuls. Dans le règlement, il est même interdit de se mettre en couple avec un autre passager. Sinon quoi? Jeter par-dessus bord? Hop, au requin? Un truc comme ça, oui. En tout cas, je crois que ça refroidit ceux qui voyagent pour trouver l'amour. Normalement, on sera tous là pour la même chose. Se retrouver avec nous-mêmes. Quelle idée, pourquoi vous faites ça? Vous êtes pas mal pour votre âge. Marie pleure de rire. Merci du compliment. Je viens de me séparer. J'avais besoin de partir, de me retrouver. Et j'ai toujours voulu faire une croisière. Mon mari, jamais. Alors, quand j'ai vu l'affiche dans la vitrine de l'agence de voyage, j'ai foncé. Le chauffeur enfonce le klaxon. Allez, avance, enculé. T'attends que le stop passe au vert? Donc, si vous tombez amoureuse, vous faites quoi? Ça n'arrivera pas. On tombe amoureux quand on est disponible. Je ne le suis pas du tout. Ça se décide pas, ça. Les coups de cœur, c'est comme un tremblement de terre. On ne peut pas lutter. Arrêtez. On dirait du Dorothée. Son cœur, Marie compte bien le garder pour elle. La dernière fois qu'elle l'a confié à quelqu'un, il le lui a rendu en mauvais état. Elle en a déduit que les gens ne faisaient pas attention à ce qui leur appartenait pas et l'a mis à l'abri dans du papier bulle. On n'a pas besoin d'être deux pour être heureux. Comme si la vie se résumait à ça. Comme si le bonheur n'était accessible qu'au père. Il y a bien d'autres choses à faire qu'aimer quelqu'un. « Regardez là-bas, la cheminée jaune !» lance le chauffeur. « C'est votre paquebot !» Et elle a hâte de commencer. Le hall est gigantesque. Un peu trop clinquant au goût de Marie. Trop Las Vegas. Mais le dépaysement est total. Sol en marbre, dorure, lustre de cristal démesuré, ascenseur vitré qui grimpe à une hauteur vertigineuse, murs végétaux, tapis colorés, lumières omniprésentes, tout est fait pour que les passagers soient transportés dans un autre monde. Ces vacances se résumaient jusque-là à la résidence familiale en Auvergne. Chaque 1er août depuis 20 ans, ils chargeaient le monospace et partaient en pleine nuit pour éviter le monde et la chaleur. Ils rejoignaient le frère de Rodolphe, sa femme et leur fils et passaient 2 semaines à mesurer le temps avant de reprendre la route en sens inverse. Marie a toujours rêvé d'autres bouts du monde et de découvertes. En attendant l'ascenseur, Marie essaie de contenir son impatience de découvrir sa cabine. Elle a l'impression d'avoir 15 ans, d'être une ado libérée du joug parental. À en croire l'effervescence autour d'elle, beaucoup de passagers sont dans le même état. Il y a du monde. D'après la brochure, 1 000 personnes devraient embarquer aujourd'hui, toutes nationalités confondues. Il y a des jeunes, des moins jeunes, des plus jeunes du tout, des souriants, des excités, des pressés, des perdus, des très préparés, des blasés, des bavards, des affolés, des énervés. Tous sont différents, mais tous ont un point commun. Ils sont seuls. Et vu qu'ils comptent le rester, il y a fort à parier que la plupart sont divorcés, séparés, veufs, déçus. Des naufragés de la vie, comme elle. Cohabiter avec des gens dans la même situation qu'elle a quelque chose de rassurant. Dans sa solitude, elle se sent entourée. L'exact inverse de ce qu'elle ressentait avec Rodolphe. L'ascenseur dépose Marie et un flot de passagers au pont A. Une voix familière s'en échappe. Oh là là, oh là là! Anne tourne la tête dans tous les sens à la recherche d'un repère. Anne, tout va bien? Oh mon Dieu, Marie, quel bonheur de vous voir. Je suis perdue avec tout ce monde. J'ai du mal à respirer, dit-elle en s'accrochant à son bras. Vous êtes dans quelle cabine? 523. On m'a dit que c'était par ici, mais c'est trop grand, je m'y perds. Marie suit les affichages et accompagne Anne devant la porte de sa cabine. Regardez, la mienne est juste là. Si vous avez besoin, n'hésitez surtout pas. Merci, vous êtes tellement adorable. Je ne voudrais pas abuser de votre temps, mais... Oui? Vous accepteriez de dîner en ma compagnie ce soir? J'ai besoin de prendre mes marques. Je suis terriblement affolée par toutes ces nouveautés. Avec plaisir, mais laissez-moi un petit moment. J'ai quelque chose à faire avant, répond Marie avant de s'éloigner. La cabine 578 est plus grande que les photos ne le laissaient paraître. Dès le premier coup d'œil, Marie décide qu'elle va s'y plaire. Un lit 2 places recouvert d'une épaisse couette bleue, un bureau blanc et sa chaise, un sofa 2 places, des placards, un téléviseur et son meuble, une table de chevet sur laquelle est posée une lampe, une salle d'eau, un petit réfrigérateur, une tassimo et, luxe suprême, un balcon vitré meublé d'un transat, d'une table et de deux chaises. Il lui a coûté un bon supplément, mais rien que son compte épargne ne puisse assumer. À la naissance de Lily et Justine, Rodolphe a proposé à Marie de se consacrer à leur famille. Les premières années, elle l'a fait avec bonheur. Voir ses filles grandir était une chance qu'elle savourait. Elle avait conscience d'être privilégiée. Lorsqu'elles sont entrées à l'école, l'ennui s'est incrusté dans le quotidien. Marie a commencé à regarder les offres d'emploi dans les journaux, à se renseigner sur la reprise d'études. Rodolphe n'y tenait pas et s'est employé à la plier à son avis. Voyant que la flatterie, tu vaux bien mieux que ça, la culpabilisation, tu laisserais les filles à la garderie? Et la vexation. T'as même pas fini tes études, ma pauvre. Ne mettant en sourdine ses projets que quelque temps, il y a mis un terme définitif avec un argument auquel elle n'a même pas eu la force de répondre. Je te ferai un virement sur ton compte chaque mois. Comme ça, si c'est une affaire d'argent, tu en auras. Si c'est une affaire d'ennui, tu auras le budget pour t'occuper. Elle n'a jamais touché à cet argent. Le nombre en bas du relevé bancaire augmentait tous les mois. Rodolphe le lui a souvent reproché. Elle n'avait pas intérêt à dire aux gens qu'il ne lui donnait pas d'argent. Avec la croisière, elle a trouvé un bon moyen de l'utiliser. Il doit être fier d'elle maintenant. On tape à la porte. Un membre d'équipage apporte ses valises à Marie. Elle pose la verte sur le lit, celle dans laquelle elle a rangé ses indispensables. Fait glisser la fermeture éclair, soulève quelques affaires et attrape ce qu'elle cherchait. Puis, elle se rend sur le balcon et s'installe sur l'une des chaises. Il fait doux pour une fin décembre. Le paysage commence à bouger. Le paquebot manœuvre pour quitter le port. Elle prend une profonde inspiration. Insère les écouteurs dans ses oreilles, lance Jean-Jacques Goldman, dépose la pelote sur ses genoux et sourit en activant ses aiguilles. Vous êtes superbe, Marie. J'ai failli ne pas vous reconnaître. Marie accueille la remarque d'Anne en riant. Je ne sais pas trop comment le prendre, mais merci, Anne. Vous n'êtes pas mal non plus. Marie a troqué sa tenue de voyage contre un pantalon noir et un pull kaki, du mascara et une queue de cheval. Anne porte le même tailleur que ce matin, mais dans une couleur différente. Ah, vous prenez votre sac ? Demande Marie. Vous savez qu'on n'a pas besoin d'argent. Tout se paye avec la carte Félicita. Je sais, mais j'ai mon téléphone là-dedans. J'attends un appel. D'accord, vous voulez manger où ? Anne hausse ses épaules. Je n'en ai aucune idée. Je suis complètement perdue sur ce gros bateau. Il paraît qu'il y a plusieurs restaurants. C'est assis sur des bancs autour d'une grande table commune que Marie et Anne entament leur première soirée à bord du paquebot. Partager un plat, a fortiori quand il contient des moules et des crevettes à décortiquer, ça crée des liens. Il faut peu de temps aux passagers pour entamer la conversation avec leurs voisins de tablé. Marie perçoit quelques mots qui ressemblent à de l'allemand derrière elle, de l'anglais à sa droite et des bribes d'italien un peu plus loin. Ou de l'espagnol, elle confond toujours. La dernière fois qu'elle a pratiqué, en dehors de l'école, elle avait 8 ans. Avec ses parents et sa sœur, ils étaient partis en Italie pour quelques jours de camping. Elle avait tellement aimé découvrir une nouvelle culture qu'elle avait noirci les 96 pages d'un cahier de brouillon et s'était promis de beaucoup voyager. Elle ne s'est pas complètement menti. Elle a sa collection de DVD. Vous êtes française ? La magnifique brune, assise à côté d'Anne, aspire bruyamment la tête d'une crevette. Ça fait du bien d'entendre parler français. J'ai cru qu'il n'y avait que des étrangers ici. Déjà, il n'y a que des vieux. Si en plus ils ne parlent pas français, je suis au bout de ma vie. Je m'appelle Camille, au fait. Je suis française, répond Anne. En revanche, j'ai bien peur d'être vieille. C'est mieux que rien. Je ne supporte pas la solitude. Marie hausse un sourcil. Je pense que vous êtes trompée de croisière alors. Non, mais j'avais pas compris le truc solitaire. Là, j'ai pas bien lu la brochure. Il fallait que je fasse le tour du monde et c'était la seule croisière à cette date-là. Il fallait, répète Anne. Camille s'attaque au poulet. Ouais, j'en pouvais plus de ma vie plan-plan. Le boulot, les copains, les factures. J'ai même pas 25 ans, bordel. Alors j'ai pris un congé et je me suis lancé un défi. Je vais me taper un mec dans chaque pays. Assis à côté de Marie, un homme aux cheveux gris manque de s'étouffer avec une rondelle de chorizo. Vous tapez un mec dans chaque pays? Répète Anne en détachant chaque syllabe. Ben ouais. Enfin, je dis pas que je vais coucher chaque fois, hein. Juste quand ils seront vraiment canons. Sinon, la langue suffira. L'homme aux cheveux gris se tortille sur le banc. Marie se resserre un verre. Et vous faites quoi comme boulot? Demande-t-elle. Je suis gestionnaire de patrimoine dans une banque privée. Uniquement les grands comptes. Ça étonne toujours. Paraît que j'ai pas le profil type. Marie s'empêche de recracher sa sangria en appuyant une serviette contre sa bouche. Anne secoue la tête en pouffant. Camille les imite et lève son verre. À notre tour du monde. À notre tour du monde. Assises sur les transats du pont supérieur, emmitouflées dans les couvertures supplémentaires de leur cabine, les trois femmes terminent la soirée. Camille détaille son planning ambitieux. Anne se demande si la boule dans son ventre ne serait pas un début de mal de mer. Marie raconte la surprise qu'elle a réservée à son mari pour son anniversaire. En observant les étoiles au-dessus de sa tête, elle prend conscience de la situation. Elle se trouve sur un paquebot, au milieu de la Méditerranée, sans ses proches, loin de tous ses repères, avec une sexagénaire angoissée et une jeune nymphomane. Elle pourrait avoir peur, culpabiliser, regretter. Elle pourrait vouloir faire demi-tour, tout annuler, rentrer chez elle en faisant comme si rien ne s'était passé. Mais elle préfère se laisser envahir par un sentiment qu'elle ne lui avait pas rendu visite depuis longtemps, de la fierté. Jusqu'à ce que Anne se mette à pleurer. Marie a trop bu hier soir, trop fumé aussi. Deux cigarettes et demie pour une non-fumeuse, c'est trop. Un léger coup frappé à la porte l'attire du sommeil. Les voyants rouges du téléviseur annoncent 7 heures. Elle s'est couchée il y a 5 heures à peine, après avoir passé la soirée avec Anne et Camille. Elle se dégage de la couette. Ça faisait des années qu'elle n'avait pas si bien dormi. Le roulis du paquebot n'y est sans doute pas étranger, tout comme ce sentiment de liberté qu'il n'acquitte pas. Elle enfile sa robe de chambre et ouvre la porte. Anne est devant, les yeux bouffis, le sourire à l'envers. Bonjour Marie. Je tiens d'abord à te dire que je ne suis pas du genre à m'épancher d'habitude. Entre, je ne suis pas habillée. Elle obéit et s'assoit sur le sofa. Marie se pose face à elle au pied du lit. Je n'ai pas dormi de la nuit, dit Anne en soupirant. Je pense que j'ai fait une terrible erreur. J'ai gâché ma vie. C'est pour ça que t'as pleuré hier soir? Oui, j'ai préféré mentir. Je n'osais pas vous en parler. Mais là, j'en ai besoin. Je n'arrive pas à garder tout ça pour moi. Tu me prêtes ton oreille? Bien sûr. Tu veux un jus d'orange? Anne se confie à Marie en triturant un mouchoir en papier. Elle a 62 ans. Dont près de 40 passés avec son compagnon Dominique. Un amour tellement fusionnel qu'ils ont fait le choix de ne pas avoir d'enfant. Nous nous suffisions à nous-mêmes. Un enfant aurait été de trop. Anne pensait que leur entente harmonieuse durerait toujours. Leur couple n'avait jamais connu de déchirure, tout au plus quelques accrocs vite raccommodés à force de discussions. Ils étaient un modèle pour leurs amis, et se répétaient souvent qu'ils avaient de la chance de s'être trouvés. Être ensemble était leur définition du bonheur. Mais il y a quelques mois, Dominique a changé de comportement. Lui, qui était toujours joyeux, est devenu maussade. Son entreprise faisait face à un nouveau concurrent qui attirait ses plus gros clients. S'il n'arrêtait pas l'hémorragie, il devrait mettre ses collaborateurs à la porte et la clé dessous. Il ne comptait déjà pas ses heures, c'est devenu pire. Chacun de ses instants était consacré à son entreprise. Il se levait avant le réveil d'Anne, se douchait sans faire de bruit et quittait l'appartement en refermant la porte doucement. Le soir, il rentrait après son coucher et se glissait auprès d'elle en veillant à ne pas la déranger. Les rares fois où ils se croisaient, il avait la tête ailleurs. Il était fermé, angoissé, tendu. La vie d'Anne était devenue silencieuse, elle se sentait seule. J'ai eu peur. Il me restait peu de temps avant la retraite. Je l'avais toujours attendue avec impatience, mais là je la redoutais. À quoi allait ressembler mon quotidien? Une succession de journées sans bruit, sans lui? Je ne m'imaginais pas dans cette ambiance sinistre, c'était impossible. Alors j'ai essayé de le faire réagir. Tu aurais un Kleenex? Non, du papier toilette? Anne a d'abord essayé de discuter. C'était leur point fort, la communication, celui qu'ils brandissaient quand on leur demandait leur recette pour faire durer leur couple. Elle lui expliquait qu'elle se sentait seule, qu'elle préférait même être au travail. Au moins, il y avait ses collègues. Il semblait la comprendre, il faisait même quelques efforts, mais il s'essoufflait vite. Elle n'avait plus le premier rôle dans sa vie. Alors, un soir où il n'était pas rentré à minuit, elle s'est levée, a rempli une valise de ses affaires, l'a posée devant la porte avant de la fermer, en laissant la clé dans la serrure. Puis, elle est retournée se coucher. « Ah oui, tu rigoles pas, » s'exclame Marie. « Je voulais juste le faire réagir, je ne pensais pas qu'il le prendrait comme ça. J'étais persuadée qu'il sonnerait ou qu'il m'appellerait. » Mais non, Dominique a pris sa valise et a disparu. Littéralement. Anne l'a appelé des milliers de fois, lui a laissé de nombreux messages, l'a attendu des heures devant son bureau. Il n'a répondu qu'au bout d'une semaine. Il était déçu. C'était la première fois qu'il avait besoin de son soutien et elle n'avait pas été là pour lui. Ajouté au fait qu'elle avait toujours refusé ses demandes en mariage. Il ne croyait plus en elle. Il avait besoin de temps. Une pause était nécessaire. Anne renifle. Il avait raison. J'ai été horrible avec lui. J'aurais dû dire oui la première fois qu'il m'a parlé de mariage. Mais je n'en avais pas envie. On n'avait pas besoin de ça. J'avais peur que ça casse quelque chose. Il n'est jamais revenu ? Demande Marie. Attends, ce n'est pas fini. Sans Dominique à ses côtés, Anne a sombré. Elle ne savait rien faire sans lui. Elle ne voulait rien faire. L'avenir qui se dessinait, elle ne l'avait jamais envisagé. Tout le lui rappelait. Une chanson, un film, une odeur. Elle sombrait. C'est là qu'elle a fait ce qu'elle appelle sa plus grosse bêtise. C'était une soirée entre collègues, avec quelques anecdotes et beaucoup d'alcool. Il y avait Jean-Marc, l'informaticien toujours réconfortant. Elle s'est confiée à lui, il l'a écoutée et a séché ses larmes à coups de paroles bienveillantes et de caresses sur le bras. Sans s'en rendre compte, elle s'est retrouvée dans sa chambre, à cheval sur lui. Il était en train de déchirer un sac de préservatifs lorsqu'elle a réalisé la scène. Elle s'est levée à la hâte, a ramassé ses affaires et a déguerpi sans même prendre le temps de se rhabiller. « C'est plutôt bien, t'as résisté, » dit Marie. Dominique ne l'a pas entendu de cette oreille. « Ah, merde !» Comme tu dis, après plusieurs semaines de réflexion, il a réalisé que sa compagne lui manquait. Il l'a invitée dans le restaurant favori pour lui annoncer qu'il souhaitait reprendre leur vie commune. Submergée de joie, elle a pensé qu'elle n'avait pas le droit de lui mentir. Elle n'avait pas été au bout avec Jean-Marc. Il serait soulagé et la comprendrait. Il n'a malheureusement pas accueilli ses confessions de cette manière. Il l'a plantée sans dire un mot, et elle a fini le dîner en tête à tête avec une dorade royale. Une semaine plus tard, il venait récupérer toutes ses affaires. Hop, 40 ans de vie engloutis dans un camion de déménagement. Je l'ai suivi des yeux jusqu'au bout de la rue en priant pour qu'il fasse demi-tour. Mais il est devenu de plus en plus petit et a disparu. T'as pas essayé de lui expliquer, d'arranger les choses? Elle a tout essayé. Elle lui a écrit des lettres, envoyé des SMS, présenté des excuses, elle a pleuré, prié, promis. Elle a même rendu visite à une médium réputée pour agir à distance sur les personnes ciblées. Rien n'a fonctionné. C'est comme s'il l'avait rayée de sa vie. Cette croisière, c'est sa dernière chance. Elle lui a envoyé un message pour le prévenir de son départ. Elle est restée vague. « Je pars. Adieu. » Elle s'attendait à une réaction. S'il l'aimait un tant soit peu, il s'inquiéterait. Il voudrait en savoir plus. Il ne la laisserait pas partir comme ça. Depuis hier, elle n'a pas quitté son téléphone. Il n'a pas sonné une seule fois. « C'est terminé, » souffle-t-elle. « Je l'ai perdue. Je suis désolée, Anne. Tu as l'air forte. Je suis sûre que tu vas te reconstruire. » « Je ne veux pas me reconstruire. Je veux qu'il revienne. Je ne parviens pas à arrêter de l'aimer. » Marie va chercher un deuxième rouleau de papier toilette dans la salle d'eau et le tend à Anne. « Je ne suis pas sûre que ça changera quelque chose. Mais je crois que j'ai une idée. » Le bus est presque plein. Sur les sièges jaunes, les croisiéristes et leurs appareils photo attendent le départ. La visite guidée de Barcelone est apparemment l'excursion la plus prisée de la journée. Oh là là, quel monde! Nous allons étouffer. Vous ne préférez pas aller au spa, vous êtes sûr? Anne tapote son front avec un mouchoir. Si elle avait été seule, elle aurait privilégié une activité plus isolée. La foule l'angoisse. Mais Marie lui a expliqué son plan pour l'aider à reconquérir Dominique et il débutera vraisemblablement cet après-midi lors du quartier libre. Elle n'a pas le choix, elle doit y être. Camille s'est jointe à elle. La capitale catalane est une excellente ligne de départ pour son tableau de chasse. Elle a toujours eu un faible pour les latinos. Merde, il n'y a que des places isolées. On va pas pouvoir être côte à côte. C'est pas grave, répond Marie. On se retrouve après la visite guidée. Depuis son arrivée, elle a eu peu de moments à elle. Se retrouver seule quelque temps ne lui fera pas de mal. Plus jeune, elle détestait la solitude. Il fallait qu'elle soit toujours entourée. Puis elle l'a subie. Finalement, elle est devenue sa compagne. Les habitudes deviennent une seconde nature à l'usure. Elle se dirige vers une place libre, troisième rangée, côté fenêtre. Côté couloir, un homme est plongé dans un guide touristique, les jambes tendues sous le siège de devant. Marie reconnaît les cheveux gris. Il était à leur table la veille, c'est lui qui a failli s'étouffer à cause de Camille. Il est donc français. « Pardon, monsieur, » dit-elle. Aucune réaction. « Excusez-moi, monsieur, je voudrais passer. » Toujours rien. « Youhou, vous m'entendez ?» répète-t-elle en lui touchant l'épaule. « Cette place n'est pas libre, » fait-il sans lever les yeux. « Ah, pardon, vous attendez quelqu'un ?»« Non, vous voyez bien qu'il y a mon sac. Vous n'êtes pas sérieux. »« Monsieur ?» Marie regarde autour d'elle. Les seules places restantes sont côté couloir. Elle n'y verrait pas grand-chose du paysage. Elle veut cette place. Camille est assise à deux rangées de là. Elle lève un poing en l'air pour lui donner du courage. Le bus démarre. Imperturbable, l'homme lit toujours la même page. « Bon, allez, ça suffit, laissez-moi passer. On se donne en spectacle. »« Vous me dérangez, je suis en train de lire. » Marie se penche à son oreille et murmure en souriant froidement. « Vous êtes mal tombé. Je commence à en avoir ma dose des types dans votre genre. » « Alors, si vous ne me laissez pas passer, je vous grimpe dessus et je m'assois sur votre sac de merde. » L'homme aux cheveux gris reste immobile quelques secondes, puis, sans lâcher son livre des yeux, il attrape son sac à dos et le glisse sous ses jambes avant de les replier pour la laisser passer. Marie hoche la tête. Merci bien, monsieur. Elle passe entre ses genoux et le siège de devant, s'assoit, et pour faire tomber son stress, se concentre sur les maisons catalanes qui défilent. Les passagers n'ont pas l'air d'avoir entendu, mais elle est gênée. Elle n'a jamais aimé se faire remarquer. Ce type l'a poussée à bout. C'est monté d'un coup, impossible de se retenir. Elle cale les mains sous ses cuisses pour calmer le tremblement. Son costume de mère au foyer docile semble être devenu trop petit pour elle et craque de tous côtés. Comme si faire une bonne première impression ne lui importait plus autant qu'avant. Comme si elle se foutait désormais de ce que les autres pouvaient penser. C'est effrayant de ne pas connaître celle qui se cache sous la carapace. Mais ça faisait longtemps qu'elle ne s'était pas sentie aussi vivante. Après avoir fait découvrir les incontournables de Barcelone aux passagers, le bus les dépose au vieux port pour qu'ils puissent profiter de leur après-midi de liberté. Camille rejoint Anne et Marie sur la colonne Christophe Colomb. Vous faites quoi? On va aller se balader dans Las Ramblas, ça vous dit? C'est quoi? Demande Anne. C'est une grande avenue très animée, avec des cafés, des monuments, des stands, carrément immanquable quand on vient à Barcelone, répond Marie en citant l'un de ses DVD. Moi, je vous laisse, je vais chasser le latino, lance Camille en s'éloignant. À tout à l'heure, les filles. Anne lui fait un signe de la main. J'en vis son insouciance. Essaye de profiter un peu, regarde le beau temps qu'on a. Et cette ville est magnifique, pas vrai? Si. J'ai été émerveillée par la Sagrada Familia. Si seulement je pouvais partager ça avec Dominique. Marie passe son bras sous le sien et l'entraîne vers l'avenue qui se déroule devant elle. Viens, on va s'en occuper. C'est le troisième kiosque qu'elle visite. Dans les deux premiers, Anne n'a pas trouvé ce qu'elle cherchait. Le plan de Marie lui paraît voué à l'échec, mais elle a accepté de s'y plier. Elle pensait avoir grillé sa dernière chance. On lui en offre une supplémentaire. Elle ne va pas la refuser. Ces deux femmes sur son chemin, toutes deux tellement différentes, ce n'est certainement pas pour rien. Elles sont comme elle, à la croisée des chemins, à l'un de ces instants où la direction prise va déterminer le reste de leur existence. Ensemble, elles ne seront pas plus lucides, sans doute pas plus fortes, mais au moins, elles ne seront pas seules. Je crois que je l'ai trouvé. Anne tend la main vers le présentoir de cartes postales et en attrape une. La photo représente un couple survolant Barcelone en ballon. Marie hoche la tête. Elle est parfaite. Tu prends un stylo avec? Son plan est simple. Dominique doute des sentiments d'Anne, qu'il n'a pas soutenue lorsqu'elle en avait besoin. Pour le faire réagir, elle est partie sans lui dire où elle allait. Elle le conforte dans ses interrogations alors qu'elle doit le rassurer. Elle va tenter de le faire. C'est sur la terrasse de Marie, autour de deux boîtes en carton, que Camille leur raconte son aventure catalane. Leurs jambes à l'abri des couvertures, elles partagent pizza et anecdotes. Regardez-moi un peu ce canon. Camille tend son smartphone sous le nez de ses amis. Sur l'écran, un brun aux cheveux mi-longs prend la pose. Je vais le mettre en fond d'écran et je le changerai au prochain. C'est ce qu'on appelle un fond d'écran dynamique. Marie et Anne rient de l'avoir si excitée. La proie s'appelait Miguel. Elle a été repérée de loin. Des fesses musclées dans un jean délavé, son mets préféré. La chasseuse l'a observé un moment avant de s'approcher à couvert. Une seule attaque serait tolérée. Elle n'avait pas droit à l'erreur. La proie n'a opposé aucune résistance, plongeant dans le sourire de la prédatrice avec gourmandise. Le piège n'avait plus qu'à se refermer. Depuis le début de la croisière, Camille fanfaronnait. Elle allait enchaîner les conquêtes sans sentiment, sans gêne, sans attache. Mais la vérité, c'est qu'elle n'était pas sûre d'y arriver. Ce qu'elle n'a pas encore avoué à ses deux nouvelles amies, c'est qu'avec les hommes, elle n'est pas vraiment experte. À vrai dire, elle n'en a eu qu'un seul dans sa vie. Et la réciproque n'est même pas vraie. Il y a 2 ans, Camille était grosse. Pas ronde, pas enrobée, pas potelée, pas généreuse, pas dodue, pas forte. Grosse. Elle avait développé des tas de qualités pour faire oublier les couches de graisse dans lesquelles elle s'était enveloppée à la mort de sa mère. On pouvait utiliser plein d'adjectifs pour la qualifier. Drôle, serviable, cultivée, bosseuse, douée en dessin, exubérante, dynamique ou encore minutieuse. Mais ce n'était pas suffisant. Le gras est plus visible que la culture. Camille, c'était la grosse rigolote, la bonne copine qu'on invitait aux soirées pour mettre l'ambiance, mais qu'on oubliait dans un coin quand les slows résonnaient. C'est dommage. Est sans doute la formule qu'elle a le plus entendue depuis sa naissance. Sa grand-mère trouvait dommage que son beau visage soit neutralisé par son gros corps. Son père trouvait dommage qu'elle ne fasse pas plus d'efforts pour maigrir. Ses copines trouvaient dommage qu'elle ne vienne pas faire les boutiques avec elle. Son frère trouvait dommage qu'elle mange tous les gâteaux. Les garçons trouvaient dommage qu'elle tombe amoureuse d'eux. Jusqu'à ce qu'elle rencontre Arnaud. Elle avait 18 ans. Il a atterri dans sa classe au beau milieu du deuxième trimestre. La première fois qu'ils ont fait l'amour, il a éteint la lumière. Elle a trouvé sa délicate sa part. Il venait la voir souvent. Il s'enfermait dans sa chambre. Il regardait la télé. Il révisait. Il s'embrassait. Elle se demandait ce qu'il lui trouvait. Il ne voulait pas que ça se sache. Les couples dans une classe, c'était mal vu. Il valait mieux garder le secret. Et ils l'ont gardé 3 ans. Un jour, il n'est pas venu la rejoindre. Elle lui a laissé un message. Un ami commun l'a intercepté. La rumeur était lancée. Elle a pris fin lors d'une soirée, en même temps que leur histoire, quand Arnaud a confronté Camille en public. « Vous pensez vraiment que je pourrais me taper la grosse ?» il a dit. Elle a pleuré, ils l'ont défendu, il est parti. En rentrant ce soir-là, elle s'est déshabillée face au miroir et a observé son gros corps. Zone par zone, elle a frotté sa peau de toutes ses forces avec son poing serré. Son ventre qui retombait en un flasque bourrelet sur son pubis, ses seins informes, ses cuisses qui l'obligeaient à marcher les jambes écartées, son visage boursouflé, ses fesses dégueulasses. Elle avait mal, elle était rouge, mais ça ne fondait pas. Ça ne se modelait pas non plus. Dès le lendemain, elle a entamé un nouveau régime. Elle a tenu 4 jours. Il y a 2 ans, Camille avait assez d'argent de côté pour se faire opérer. Elle s'est rendue à la clinique avec une valise pleine de t-shirts amples et d'espoir. Le médecin lui a expliqué que ce serait douloureux, que le combat ne faisait que commencer. Elle lui a répondu que ce qui commençait vraiment, c'était sa renaissance. Ils ont réduit son estomac et augmenté sa confiance en elle. Kilo après kilo, l'aiguille sur la balance a flanché. Quand elle a atteint les 45 kilos de perte, Camille s'est fait enlever la peau relâchée, elle s'est mise au sport et a entamé une thérapie. Puis, elle a demandé à être mutée dans une agence inconnue. Depuis 6 mois, elle partage son bureau avec Julien. Elle aimerait partager des tas d'autres choses avec lui, et pas seulement un déjeuner. Il est capable de la faire frissonner en lui demandant de lui passer un dossier. Seulement, lorsqu'il l'a invitée à dîner, elle a paniqué. Elle n'était pas prête. Peur de ne pas avoir assez d'expérience. Peur qu'il voie ses vergetures. Peur de lui faire payer son passé. Peur de mal s'y prendre. Elle a posé un congé sabbatique et décidé de se former en accéléré. Et donc, tu as été jusqu'où avec Miguel ? Demande Anne. Oh, on s'est juste galoché. Il était un peu mou de la langue. C'était mauvais signe pour le reste.
Vous avez fait connaissance avec Marie, Anne et Camille. D'après vous, comment vont se passer leurs 3 mois de croisière autour du monde? À vous la suite.